Alors, on est content d'être ensemble pour Pâques. Vendredi, c'est le mémorial de la mort de Christ à la croix, n'est-ce pas? Et dimanche de Pâques, sa résurrection. Et ce matin, on va aller voir ce que ça représente pour nos vies personnelles, non seulement pour restaurer une relation avec Dieu, mais aussi pour nous donner un exemple d'un véritable amour chrétien. On va aller voir ça ensemble ce matin. Un des grands thèmes dans notre culture depuis de nombreuses années, c'est toute la notion de victime. Une société qui cherche à être juste, c'est une société qui va chercher à prendre soin d'adresser les injustices, d'aller vers les victimes. C'est un sujet super important en Occident, mais ça l'a toujours été aussi dans l'histoire de l'humanité. On a une fibre à l'intérieur où on veut la justice, on veut que les torts soient redressés. Et c'est un thème très fort dans la Bible. Dieu se présente comme le protecteur de la veuve et de l'orphelin. C'est un thème super important. En fait, les Écritures nous disent que si toute justice n'est pas rendue ici-bas sur la terre, un jour, tous comparaîtront devant Dieu et la justice sera rendue. Donc, c'est un thème super important, cette notion-là de victime. C'est un thème important aussi parce que Jésus lui-même, Dieu le Fils incarné, fait homme, se présente comme une victime volontaire, celle-là, une victime expiatoire. Il vient payer pour nos péchés. Et donc, non seulement la notion de justice, que Dieu rende justice, qu'il rende justice aux veuves, aux orphelins, aux victimes dans ce monde, mais Christ lui-même va s'offrir comme victime. Et ce matin, on va aller vers l'Évangile de Jean pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, comprendre ce que Christ a fait pour nous et le modèle qu'il est pour nous comme chrétiens. Et ensuite de ça, lorsqu'on veut marcher à sa suite, comment on s'y retrouve dans ça, être victime ou serviteur, se donner, on va aller voir à Jésus-Christ parce que c'est lui notre modèle et c'est lui notre sauveur. On va aller dans un mot de prière, préparer nos cœurs à entendre parler de Jésus, de son évangile, être instruit par lui. Seigneur Jésus, tu as été victime sur la croix, mais une victime unique, définitivement volontaire, Seigneur. Innocent de tout péché, mais en même temps pas innocent ou inconscient de ce que tu faisais, au contraire, absolument conscient de ce que tu faisais en allant à la croix. Et des millions de chrétiens partout à travers le monde célèbrent aujourd'hui ta résurrection, Seigneur. Cette mort et cette résurrection, ce n'est pas simplement pour nous un événement passé dans l'histoire, c'est quelque chose de présent pour nous comme chrétiens parce que nous avons expérimenter nous-mêmes une vie nouvelle en toi, une résurrection spirituelle en toi. Et tu nous appelles à cette vie nouvelle, à ta suite, à ton image. Je te prie, Seigneur, de venir parler à nos cœurs ce matin. Je te prie, Seigneur, aussi d'interpeller ceux qui sont peut-être dans des situations où eux-mêmes sont victimes et cherchent à comprendre où tu es dans tout ça. Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Quel est ton jugement sur les maux, sur le mal qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce que tu es venu faire pour les hommes, Seigneur? Mais enfin, Seigneur, je te demande de nous instruire aussi, de nous montrer la voie, l'attitude du serviteur volontaire que tu as été, Seigneur, pour nous. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen.
La lecture de ce matin sera dans Jean 13, les versets 1 à 35, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jean 13, versets 1 à 35. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien que, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir et il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Quel beau passage dans les Écritures. C'est un long passage, mais en même temps, ça vient vraiment dans un morceau où il y a toutes sortes de jeux qui se passent là. Jésus a à cœur d'instruire encore une fois ses disciples, non seulement en pointant vers ce qui s'en vient dans quelques jours, la croix, dans quelques instants en fait, la croix, mais aussi pour les instruire, qu'est-ce que c'est être un chrétien, qu'est-ce que c'est marcher à sa suite, comment on est appelé à s'aimer les uns les autres. Puis, en trame de fond, il y a Judas qui est en train de se préparer à le trahir. Et donc, je fais juste pointer quelque chose de vraiment fascinant. Quand il est fait mention que Jésus aimait ses disciples et qu'il s'en va laver les pieds, et Judas fait partie des disciples à qui il va laver les pieds. Il fait partie des disciples qu'il va aimer. C'est vraiment un très, très beau passage. Il y a énormément de choses dedans. Mais il y a quelque chose de très, très précieux. C'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce que Christ a fait en se donnant pour nous. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ça m'a frappé quand j'ai abordé le passage. Il se prépare à leur laver les pieds, puis Jean dit, il a mis le comble à son amour pour eux. Comme si Jean mesurait mieux qui est vraiment Jésus, Dieu le Fils qui vient laver les pieds de ses disciples, qui vient faire l'œuvre d'un serviteur, d'un esclave, ce qu'il y avait de plus bas dans une maison, lui qui a créé cet univers où on habite, où nous vivons. Jésus mit le comble à son amour. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Nous célébrons Pâques. Bien, Jésus a célébré Pâques en servant ceux qu'il aimait, jusqu'à donner sa vie, à notre tour d'en faire autant. Nous célébrons Pâques, Jésus a célébré Pâques en servant ceux qu'il aimait jusqu'à donner sa vie à nous d'en faire autant. Je ne sais pas si c'est cette vision-là que tu as de la célébration de la Pâque, de servir les gens autour de toi, donner ta vie pour les gens autour de toi. Premièrement, la marque suprême de son amour. Je résume ça en trois éléments. Jésus savait, Jésus aimait, Jésus servait. Gardez ça en tête, d'accord? Jésus savait, Jésus aimait, Jésus servait, parce qu'après on va parler de nous et on est appelé à savoir, à aimer et à servir nous aussi. La marque suprême de son amour. C'est frappant dans le passage. Jean souligne des choses que Jésus sait, dont Jésus a vraiment conscience, alors qu'il est en train d'agir, de la manière qu'il va se comporter, il le fait en toute connaissance de cause. Il sait ce qu'il fait. Il savait que son heure était venue d'aller à la croix pour aller ensuite au Père. Si vous regardez le verset 1, on vient juste de le lire. Sachant que son heure était venue, Jésus est conscient que c'est imminent. Il s'en va sur la croix. Il s'en va mourir. C'est comme ça qu'il va retourner au Père, c'est en mourant sur la croix. Il est conscient que son heure est venue. Il est conscient que sa pire épreuve arrive. Et dans ce moment-là, il décide de mettre le comble à son amour pour ses disciples. Il est conscient que ses pires souffrances sont devant lui et il décide de mettre le comble à son amour pour ses disciples en les servant. Il savait que c'était de son propre gré. Super important dans le texte, si tu ne saisis pas que Christ s'est offert volontairement, tu ne peux pas saisir l'Évangile. Christ peut sembler être une victime ordinaire, une victime involontaire. Regardez le verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, toute chose, sa propre vie, tout pouvoir lui a été donné. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Au moment où Christ s'en va à la croix, il sait d'où il vient, il sait où il s'en va, il sait qu'il a tout pouvoir. C'est extrêmement important de saisir ça pour comprendre le christianisme, pour comprendre l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous, savoir qu'il a tout pouvoir, il a toute autorité, il le fait volontairement. Il n'y a pas de question sur son identité personnelle, il sait d'où il vient, il sait où il s'en va, il sait qu'il a toute autorité. C'est important de savoir ça même pour comprendre l'amour chrétien. Non seulement l'amour de Christ pour nous, mais l'amour d'un chrétien pour un autre frère, même pour un ennemi. Savoir d'où je viens, où je m'en vais, qui je suis. Christ savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Maintenant, regardez bien le verset 11. « Car il connaissait celui qui allait le livrer. » Jésus savait que Judas allait le trahir. Jésus connaissait la suite de l'histoire. Jésus savait qu'il s'apprêtait à aimer, à servir celui qui en fait allait le livrer, celui qui allait le trahir. Jésus sait. Avant d'aimer, il sait. Il n'est pas une victime comme les autres. Il se donne lui-même. Jésus savait d'où il venait, savait que son heure était venue, savait où il s'en allait, savait que le Père lui avait remis toute autorité, tout pouvoir, savait qu'il serait trahi, même par qui il serait trahi. Jésus savait. Jésus aimait. Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Sachant, Jésus aimait. Sachant tout ça, Jésus aimait. Puis, c'est touchant dans le passage parce que c'est probablement Jean qui est en train de faire allusion à lui-même puis qui n'ose pas se présenter en disant son nom. Au verset 23, on lit « Un des disciples, celui que Jésus aimait. » Bien, si c'est Jean qui a écrit ça, il vient de dire que Jésus aimait tous les disciples. Mais il est en train de nous parler de son expérience à lui. Lorsqu'on dit que Jésus aimait, les gens sentaient qu'il les aimait. Je veux dire, pensez à toutes les situations où Jésus intervient avec des gens, où il va les toucher. La femme que des hommes veulent lapider parce qu'elle a été surprise en situation d'adultère, s'est définitivement sentie aimée par Christ, par Jésus. Donc, Jean est capable de dire Jésus aimait ses disciples, mais il est capable de dire le disciple que Jésus aimait, parce qu'il se sentait aimé par Jésus. C'est quelque chose de tangible. Ce n'était pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement dans la tête. Quand tu entrais dans la présence de Christ, tu savais que tu étais aimé de lui. Tu sentais que tu étais aimé de lui. Jésus savait, Jésus aimait. Sachant ces choses, il les aimait. En pleine connaissance de cause, il les aimait. J'ai besoin de savoir ça pour saisir l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Christ vient faire sur la croix pour moi, pour toi. J'ai besoin de savoir qu'il était conscient de ce qu'il faisait, qu'il était au contrôle de la situation, qu'il l'a fait volontairement, qu'il nous aimait, qu'il m'aimait, moi. Et pour bien des gens, devenir chrétien, c'est passer de cette perspective, cette vision très théorique, « OK, Jésus a peut-être aimé le monde », à « Jésus m'a aimé, moi, le disciple que Jésus a aimé, c'est moi. » C'est ça, devenir chrétien. C'est réaliser que c'est personnel, c'est pour moi, ça. Jean savait ça. Il connaissait l'amour de Christ. Jésus savait, Jésus aimait, alors Jésus servait. Il servait, concrètement. Versets 3 à 5. « Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, il s'est mis dans la tenue d'un serviteur, il a enlevé tout ce qu'il avait de dignité. Il prit un linge dont il se ceignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples. » Et à les essuyer avec le linge dont ils s'étaient saints. Je conçois que c'est difficile pour nous de saisir ce qui se passe là. Jésus qui lave des pieds, est-ce que vraiment c'est quelque chose de si grand? C'était le rôle d'un serviteur, d'un esclave. C'était la tâche la plus basse que tu pouvais faire dans une maison. Les disciples vivent à ce moment-là un profond malaise. J'ai envie de dire que saisir l'Évangile, c'est expérimenter un profond malaise de réaliser que Christ va sur la croix pour moi, que Christ s'est fait serviteur au point de prendre mes péchés. Jésus commence à laver leurs pieds. Et bien des gens aujourd'hui vont regarder à Jésus, vont peut-être lire la Bible un peu par curiosité culturelle. On trouve ça intéressant, on trouve ça fascinant. C'est quelqu'un qui a influencé Jésus lui-même. Mais les Écritures, la Bible, ont beaucoup influencé l'Occident. On peut pas nier ça quand même. Ça a eu énormément d'influence dans plein de domaines de la pensée occidentale, de notre culture, tout ça. Et donc, des gens vont aller vers Jésus en disant, bien, il y a sûrement un exemple, là. Il y a sûrement quelque chose à imiter. Et donc, Jésus est définitivement en train de donner un exemple. J'y viens. Mais il y a beaucoup plus que ça. Jésus est en train de servir en évoquant le vrai service qu'il va faire pour ses disciples. Parce qu'il va dire à Pierre, « Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire maintenant, Pierre, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre quand vous allez comprendre la croix. Vous allez saisir lorsque vous allez saisir la croix. » Jésus-Christ aime en servant. En servant d'abri pour nous, d'abri à nos péchés. Son corps brisé sur la croix est la véritable purification. Jésus servait. Jésus n'a pas été une victime inconsciente et sans défense. Pour ça, je parlais de cette culture où on cherche à identifier les gens qui ont été victimes, puis on veut apporter la justice, puis il y a quelque chose de profondément noble dans ça. d'extrêmement digne à vouloir rétablir la justice, à aller vers les victimes involontaires. Mais pour comprendre l'Évangile, je dois saisir que Jésus savait qu'il aimait et qu'il servait volontairement. Il n'est pas une victime inconsciente. Il vient se donner lui-même pour toi, pour moi, en toute connaissance de cause. Il s'est fait serviteur. Le fait que Jésus vient laver les pieds des disciples n'est pas seulement un exemple. Le deuxième point ce matin, c'est qu'on a été lavé par son amour. Pierre lui dit, « Pierre, tu ne peux pas faire ça, Seigneur Jésus. Tu ne peux pas laver mes pieds. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » OK, Pierre, il dit, « OK, tu peux me laver au complet, pas de problème. » Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Jésus lui dit, « Tu vas le comprendre plus tard. » Jésus dit à Pierre, et Jésus te dit à toi, il me dit à moi, « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir de part avec moi. Tu ne pourras pas participer à mon royaume. » À ce moment-ci, les disciples sont conscients que Jésus est le roi des Juifs. Ils croient cela. Ils n'ont pas réalisé que le roi des Juifs va être le sauveur des Juifs par sa mort sur la croix. Mais ils sont convaincus que c'est un roi. Ils veulent participer à son royaume. Et Jésus est en train de leur dire, « Tu ne peux pas participer à mon royaume, avoir part avec moi, si je ne te lave pas. » Christ n'est pas seulement un exemple. Il est celui qui nous lave, qui nous purifie. Puis on le voit dans le passage. Jésus, dans son explication au verset 10, va dire, « Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Parlant de Judas. Il dit, « Vous êtes déjà purs. » C'est intéressant parce que Jésus leur dit, « Vous êtes purs, mais il n'est pas mort encore sur la croix. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils possèdent pour être purs? Ils croient en lui. Il dit, « Ce que je suis en train de faire ici en vous lavant les pieds, c'est symbolique, c'est un geste symbolique. Tu es déjà purifié, Pierre, parce que tu crois en moi. » Mais non pas tous, il y a Judas qui ne croyait pas vraiment. Mais ils ont été purifiés par la foi. C'est important de le saisir parce que tout ce qu'on fait dans notre vie chrétienne ne sert pas à nous purifier. On a été purifiés en croyant en Jésus. Ils sont déjà purs parce qu'ils ont cru en lui. Ils ne saisissent pas tout, ils n'ont pas tout compris, mais déjà Jésus leur dit, « Vous êtes purs. » Puis pourtant, Jésus les confronte souvent avec le fait que c'est des pécheurs. S'ils sont purs, ils sont extraordinairement imparfaits. Ils ne sont pas purs en vertu de leur pureté à eux, mais en vertu de leur foi en Jésus-Christ. Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. Pierre dit, lave-moi. Jésus lui dit, tu es déjà pur. Tu es déjà pur parce que tu as cru en moi, Pierre. Tu as cru en moi. Est-ce que tu possèdes ce trésor extraordinaire de savoir que tu ne seras jamais à la hauteur et que pourtant tu es aimé de Dieu? Mesure ça, considère ce que je dis là. Est-ce que tu possèdes ce trésor extraordinaire de ne pas avoir à porter sur tes épaules le fait d'être le standard par excellence, atteindre toute la perfection, te purifier toi-même? Je sais que je n'y arriverai pas. Et pourtant, je suis pur à cause de ce que Christ a fait à la croix pour moi. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, est en train de pointer vers la croix et il dit à Pierre, « Vous allez comprendre bientôt. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Mais vous allez comprendre bientôt. » Jésus savait qui il était. Il savait d'où il venait. Il savait que son heure était arrivée. Il savait qu'il s'en allait à la croix. Jésus savait qui allait le trahir. Jésus savait même que Pierre allait le renier. Je ne m'attarde pas sur cette portion-là du passage ce matin, mais ce n'est pas juste Judas qui l'a trahi. Tous les disciples l'ont abandonné. Jésus savait toutes les fois où je vais manquer, parce que c'est lui qui nous purifie. C'est pas moi. C'est pas moi qui me purifie. C'est Christ. Maintenant, Jésus nous amène dans toute une autre dimension de l'amour chrétien. Parce que ces deux aspects-là dans le passage où il nous parle de ce qu'il va faire, mais il nous invite à marcher à sa suite. Il nous parle de son sacrifice, comme dans le passage de la semaine dernière, mais en même temps, il nous invite à nous charger de notre croix pour le suivre. Donc, je sais que je ne peux pas me purifier moi-même, mais je sais que je suis appelé à l'imiter, marcher à sa suite. Aime ton prochain comme Jésus t'a aimé. Comme Jésus t'a aimé. C'est vraiment intéressant. Jésus dit qu'il leur apporte un commandement nouveau au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien, car je le suis. » Il dit, « Est-ce que vous réalisez ce qui vient de se passer ici? Parce que vous allez devoir mettre ça en œuvre. Si vous êtes mes disciples, si vous marchez à ma suite, vous allez devoir faire ça à votre tour. » Verset 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus dit que c'est un commandement nouveau. Pourtant, cette notion de s'aimer avec des mesures, d'aimer ton prochain, je dirais extrêmement, avec un don de soi, c'est là à travers toutes les Écritures, c'est là dans tout l'Ancien Testament. Dans Matthieu 22, verset 37-39, c'est Jésus qui parle et qui dit, « Voici les deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je veux dire, c'est entier. Si je t'aime comme je m'aime, je vais te donner tout ce que je me donne. Je vais être là pour toi. Je vais prendre soin comme je prends soin de moi-même. Je vais être généreux. Jésus va dire d'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis comme je m'aime moi-même. Puis pourtant, j'arrive ici et Jésus nous dit que c'est un commandement nouveau. Jamais Jésus contredit l'Ancien Testament, mais je vais le dire comme ceci. Jésus vient expliciter, il rend avec une clarté limpide, parfaite, pure comme du cristal, l'enseignement de l'Ancien Testament. Vous savez, des fois, on parle avec des gens puis on leur dit, « Oui, mais Christ nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. » Là, on entend des espèces de dérives, tu sais. « Ah, mais il faut que je commence par apprendre à m'aimer moi-même si je veux aimer mon prochain, tu sais. C'est pour ça que je n'arrive pas à aimer, c'est parce que je ne m'aime pas moi-même. » On introduit des notions de pop psychologie dans ce que les Écritures enseignent. « Oui, mais tu sais... Moi, j'aime bien qu'on me dise la vérité, fait que j'aime mon prochain comme moi-même, je leur lance les vérités en pleine face. J'aime ça qu'on soit franc avec moi, fait que moi aussi, je suis franc avec les autres. » Bien, c'est comme si Jésus dit, écoutez, je sais que vous êtes lent à comprendre, on va mettre ça plus clair, OK, les amis? Je vous demande d'aimer votre prochain comme vous-même, comme je vous ai aimé, comme moi, je vous ai aimé. Est-ce que c'est clair comment je vous ai aimé? Moi, Dieu, le Fils incarné, le roi des Juifs, je suis venu laver vos pieds. Je suis venu prendre soin de vous. Je me suis rendu à la croix, je suis mort sur la croix pour vos péchés. Donc, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de, ben, je vais apprendre à m'aimer. Non, apprends que Christ t'a aimé. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à travailler si j'étais victime, justement, d'un foyer où je n'étais pas aimé, si j'ai été victime de situations abusives. Mais je vais te suggérer ceci. Le véritable remède à ce sentiment de ne pas être aimé et de ne pas avoir de la valeur n'est pas autant dans l'amour que tu vas porter à toi-même que de réaliser l'amour que Christ t'a porté. C'est ça qui nous guérit profondément. De réaliser son amour pour nous, de réaliser qu'à ses yeux, j'ai été aimé. Comme il dit à ses disciples, j'ai été choisi. Le remède de l'Évangile à ce sentiment d'être mal aimé, d'être rejeté, d'être méprisé, est infiniment plus puissant que celui de me regarder dans le miroir et d'apprendre à m'aimer. Oui, mais c'est parce que si c'est ça la mesure de ton bien-être, bien, ça se peut que par moment, tu aies des petites étincelles de lucidité. Puis tu te regardes dans le miroir, puis tu dis, « Je m'aime, mais c'est pas toujours beau. » Parce que c'est toi la mesure de ta perfection. L'Évangile a un remède le plus puissant, infiniment plus puissant que cette vision un peu humaniste qui te dit « Regarde comme t'es noble, comme t'es beau. » C'est vrai, les Écritures nous ont créés avec énormément de noblesse. On a été créés à l'image de Dieu. Mais ne cherche pas ta dignité, ne cherche pas ton identité en te regardant toi-même dans le miroir. Cherche-la en regardant d'où tu viens et où tu vas. Rappelle-toi ce qu'on a dit, Jésus savait, Jésus aimait, Jésus servait. Lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, on sait d'où on vient. Je n'ai pas toujours été un enfant de Dieu, parce que par ma vie, par mes péchés, les Écritures me disent que j'étais un enfant de ce siècle. Les Écritures vont jusqu'à me dire « un enfant du diable ». Je sais d'où je viens, mais je sais où je m'en vais. Et je sais que le Père m'a donné tout en Jésus-Christ, tout m'a été remis. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire « tout est à vous, tout vous appartient, puisque vous êtes enfant de Dieu ». Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais où je vais. Je sais que tout m'a été remis en Jésus-Christ, que j'appartiens à Christ. Je sais que j'ai été aimé par Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Je sais. Par conséquent, je peux aimer. Je peux aimer à mon tour. Voyez-vous, lorsque je vous disais, Dieu est sensible aux victimes. Dieu veut prendre soin des victimes. Dieu veut restaurer la justice. Dieu veut intervenir. C'est ça qui se passe à la croix. C'est le jugement de Dieu sur les péchés du monde. Et un jour, tout homme comparaîtront devant Dieu et Dieu rendra justice. Dieu a infiniment plus à cœur de rendre la justice dans ce monde que toi et moi, on ne l'aura jamais à cœur. Mais en même temps, Dieu résout cela en envoyant son Fils qui volontairement décide d'être victime pour nos péchés, afin que, conscient d'où je viens, je sache maintenant où je m'en vais. Je m'en vais au Père. Si je meurs aujourd'hui, moi, Yannick Etier, j'ai cette conviction profonde que je m'en vais au Père, je m'en vais rejoindre Christ. La semaine prochaine, dans Jean 14, on est en plein là, en plein dans cette promesse-là que Jésus nous donne. Je sais où je m'en vais, parce que je sais que j'ai été aimé par Christ. Et donc, je suis libre maintenant de prendre ce commandement nouveau que Jésus m'a donné. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la mesure de l'amour que je suis appelé à déployer pour les gens autour de moi. Et c'est possible que des gens autour de moi me regardent servir, me regardent me donner, puis disent « Écoute, tu es une victime. » Bien, peut-être si je n'ai pas conscience de ce qui se passe, mais en même temps, si j'ai embrassé volontairement le fait de me donner, de servir des gens qui ne sont pas aimables. Un des plus grands secrets de la vie chrétienne, c'est de mettre en pratique ce que les Écritures nous enseignent. Toutes ces choses-là ne te rendront pas heureux si tu ne les mets pas en pratique. Regardez ce qu'il dit au verset 16-17. « en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, vous êtes bénis de Dieu, pourvu que vous les pratiquiez. » Il y a des gens autour de toi que tu es appelé à servir cette semaine. Consciemment, en sachant qui tu es, en sachant d'où tu viens, en sachant où tu vas, en sachant que tu as été aimé, Tu es appelé à ton tour à les aimer et à les servir. C'est peut-être un patron au travail qui n'est pas aimable, qui n'est pas aimant. C'est peut-être un collègue qui est super charmant, mais qui est mal pris, puis il aurait besoin que tu fasses une double mesure de ton travail pour te donner pour lui. C'est peut-être quelqu'un à la maison qui est ingrat. Je ne sais pas, moi, c'est quoi, mais je sais qui je suis, je sais où je m'en vais, je sais que j'ai été aimé par Christ. Et tu vas être heureux dans cette vie chrétienne, tu vas vivre personnellement cette joie qu'il y a en Jésus-Christ si tu choisis volontairement d'aimer et de servir cette semaine. Cherche là où tu peux refléter la personne de Christ. Cherche là où tu peux faire une différence en aimant. Puis va, mets en pratique l'amour de Christ pour toi en aimant ton prochain comme Jésus t'a aimé. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin, on célèbre ta résurrection, cette vie nouvelle, Seigneur, que nous avons trouvée en toi parce que tu es ressuscité d'entre les morts, Jésus. Seigneur, ce matin, on célèbre la Pâque, ta naissance après ta mort sur la croix, ta vie nouvelle, ta résurrection, Seigneur, qui rend possible notre résurrection spirituelle, Seigneur, qui m'a permis, en croyant en toi, d'entrer dans une vie nouvelle. Et peut-être que dans mon passé, j'ai été victime. Peut-être que dans mon histoire, j'ai été victime de personnes abusives. Peut-être que dans mon passé, on ne m'a pas aidé à m'aimer, à m'apprécier, Seigneur. Mais j'ai connu en Jésus-Christ l'amour de Dieu pour moi. J'ai connu en Jésus-Christ que celui qui venait du ciel est venu mourir sur la croix pour mes péchés. J'ai découvert en Jésus-Christ une identité nouvelle. En toi, Jésus, par ton sacrifice, j'ai découvert qui je suis. Seigneur, je te prie de ramener constamment à notre esprit ton sacrifice, ton amour, ta mort à la croix, ta résurrection, Seigneur. Que notre identité comme chrétien soit fermement ancrée dans ton œuvre à la croix, afin que nous soyons librement, volontairement, par la puissance, Seigneur, de ton esprit, des serviteurs aimants. Qu'on puisse se donner, Seigneur, généreusement, même lorsqu'on sait que des gens peuvent peut-être profiter. Seigneur, nous, on le fait pour ta gloire. On le fait par amour pour toi, Seigneur, et par amour pour les gens autour de nous. Sois béni, Jésus. Merci pour cette vie nouvelle que tu as produite en nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.